introduction, je vais prier. Seigneur, merci parce que quand tu nous vois, on est tout petit à tes yeux. Mais tu vois notre cœur. Tu vois ce qu'il y a au fond de nous. Alors merci de venir le prendre ce matin, de travailler pour qu'on puisse ressentir ton amour. Mais non seulement ça, mais qu'on puisse partager aussi ton amour. Être cette page d'évangile autour de nous. Merci parce que tu es un Dieu qui commence et qui va jusqu'au bout. Alors merci de savoir qu'il n'y a pas seulement des idées, mais toi tu as des projets, puis que tes projets, ce que tu les poses, ça se réalise. Et bien, que ta volonté se fasse aujourd'hui encore, dans nos corps, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Il y a un mois, j'ai vécu un grand moment. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois? J'ai été témoin d'une excellente nouvelle pour mon amie et collègue Paulina. Je ne sais pas si tu peux montrer le PowerPoint là. Paulina est devenue canadienne. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'a travaillé par rapport au message aujourd'hui. Pour devenir canadien, c'est un long processus. Puis je vous fais l'histoire très courte ici. Pour un immigrant qui arrive au Canada, ça demande premièrement du lâcher prise. Parce que si tu veux devenir canadien, tu dois envoyer tous tes documents originaux au bureau de l'immigration. Tu dois payer X dollars pour obtenir ta résidence permanente. Tu dois passer par un médecin spécialiste de l'immigration qui t'examine. Au bout d'un long processus, tu es là, tu lâches prise. Parce que tu ne sais pas. Tu envoies et tu n'as aucune idée de la réponse. Lâcher prise. Ensuite, ça demande la confiance. Parce qu'on te dit sur les sites du gouvernement, c'est facile de venir au Canada. Puis voilà, quand tu envoies tes papiers, il y a tel délai, tant de mois de délai pour obtenir ta résidence permanente. Donc, tu y crois. Tu as espoir. Mais la réalité de l'immigrant, c'est que quand il a envoyé ses papiers, il ne peut plus rien faire, à part la confiance. Et puis, on lui donne, on dit, mais ça va venir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Puis souvent, c'est 18 mois plus tard qu'il y a une réponse. Puis entre deux, c'est impossible de parler à un agent de l'immigration parce que ton dossier, on ne sait pas où il est. Donc, tu espères qu'un jour, il sera sur le dossier, sur le dessus de la pile. Donc, l'étranger se trouve avec plein de questions, plein de doutes. Le Canada, vas-tu lui donner une chance, une nouvelle chance, une nouvelle vie, une occasion de repartir à zéro? Lâcher prise, confiance, une responsabilité. Parce que pendant ce temps d'attente, l'immigrant est appelé à se renseigner, à apprendre, à découvrir le Canada, comprendre les lois du Canada, comprendre le système du gouvernement, l'histoire, la géographie. Pour certains, c'est un apprentissage du français, de l'anglais. Recommencer souvent des études à zéro parce que ton papier que tu as obtenu de ton pays d'origine est rarement reconnu ici, au Québec. Donc, après, tu es un peu stressé parce que tout d'un coup, tu reçois une lettre, tu es convoqué pour un examen de citoyenneté. Puis tu passes une entrevue avec un juge. Donc, un engagement, une responsabilité. Puis enfin, l'engagement. Il y a 11 ans, en novembre, je me suis retrouvé avec Patty et mes enfants dans une salle communautaire à Montréal, avec 400 personnes autour de moi. Puis ces 400 personnes, dans ces 400 personnes, il y avait des femmes musulmanes voilées, il y avait des juifs hassidiques avec leurs motos, leurs chapeaux noirs, il y avait plusieurs sikhs avec leurs turbans, mais il y avait des familles, des célibataires de tous les continents. On était là tous parce qu'on était convoqués à une cérémonie de citoyenneté. Puis on prononce le serment. Alors, il y a la photo de la reine d'Angleterre, puis on s'engage. Ensuite, on signe. Puis ensuite, on chante l'hymne national Canada. Puis après, on est applaudi, puis il y a le juge qui est là devant nous, « Bienvenue au nouveau Canadien ». Puis il nous rappelle, le juge, l'importance, la découverte. Vous êtes au Canada maintenant, c'est à votre tour. Sachez que le Canada, c'est un pays hospitalier. À votre tour d'être hospitalier. Sachez que le Canada aime les différences. À votre tour de souhaiter la bienvenue, de montrer votre différence et de travailler la diversité dans l'unité. On t'encourage de faire du bénévolat. On te dit, et c'est vrai, que le Canada est un pays de paix, que tu peux pratiquer ta religion. N'oubliez pas que la femme est libre au Canada. Donc, toutes des valeurs, tu es là, waouh. Quand on se regarde, on est tous différents. On a tous les yeux pleins d'eau parce qu'on vient de faire un pas dans notre vie. Parce qu'on vient d'obtenir un papier pour lequel on espérait tant. le passeport canadien. Lâcher prise, confiance, responsabilité, engagement. Je pense que ces quatre mots résument un peu notre vie à chacun. Qui a imaginé? Imaginez il y a quelques années, Luc et Lise dans leur salon. Seigneur, tu nous appelles du Mexique à venir à l'Assomption. On va prier pour que quelque chose se passe, pour que ton règne vienne ici. Qui a imaginé il y a quelques années dans son pays d'origine, là à l'Assomption, à Joliette, un jour se retrouver ici? Qui a imaginé un jour que Dieu viendrait frapper à notre porte de cœur? Lâcher prise, confiance, responsabilité, engagement. On vit tous avec des limites sur Terre. On a tous, quelque part sur Terre, une maman que certains connaissent, d'autres n'ont pas eu le plaisir de connaître. Mais on sait un jour qu'on va mourir. Différents, mais humains. Face à la différence, soyons une page d'Évangile. Devenir Canadien m'a appris beaucoup de choses. Puis ce matin, je ne suis pas venu tout seul pour le massage. Je suis venu avec mon amie Elisabeth. Alors j'aimerais t'inviter à venir. Ouais, tu es là. Merci. Elisabeth est mariée à Eric, maman d'un petit garçon qui s'appelle Grégoire. Alors dans son quotidien, Elisabeth est actuellement en congé maternité. Mais dès cet automne, elle va retourner à son travail comme directrice des foyers des Arches du Québec. Des foyers qui accueillent des personnes avec une déficience intellectuelle. Je suis sûr qu'Elisabeth, que lâcher prise, confiance, responsabilité, engagement, c'est des mots de ton quotidien. Hein? Je vais vous dire que j'ai découvert l'Arche dans mon voyage missionnaire avec Jeunesse en Mission en hiver 2005. Dans le sous-sol d'une église, je me suis retrouvé avec des adultes dits normaux et des adultes avec une déficience intellectuelle. Qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi-là ensemble? On a prié. On a fait des bricolages. Pour moi, j'ai vécu un grand moment d'unité. Comme papa d'un enfant différent, parce qu'à cette époque-là, en 2005, Alban ne parlait très peu, avait été dans son autisme sérieux et peur de tout le monde. J'ai vu tout d'un coup le potentiel de l'Église. Offrir un lieu sûr et plein d'amour. Qu'Alban ne serait pas appelé à toute sa vie à vivre à l'écart. Mais il y aurait une place où il peut être reçu. C'était toute une fenêtre qui s'est ouverte pour moi. Alors, il y a un peu plus de 10 ans, Elisabeth, tu m'as invité à faire partie du conseil spirituel de l'Arche. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait vraiment, c'est quoi ton premier but, mais je peux te dire que...
Je me pose encore la question.
Mais je sais que ta demande m'a fait grandir intérieurement. Découvrir, vivre l'amour inconditionnel. Voilà. Merci déjà pour ça. Donc, on va faire un dialogue les deux, ce matin, au travers de différents textes bibliques, raconter un peu nos histoires. Alors, Elisabeth, raconte-moi un peu qui tu es, ton histoire. Eh bien, viens par là pour la caméra, pour que le Zoom puisse nous voir.
Ben, bonjour. Alors, je m'appelle Elisabeth. J'ai 40 ans. Je suis maman d'un bébé de 11 mois. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Laurent, mais quand on devient maman, on a comme besoin de le dire tout le temps qu'on est maman. Je suis maman d'un super bébé de 11 mois. Voilà. Donc, pour faire une histoire courte, je suis née à Sainte-Marie-Salomé, un petit village pas très, très loin d'ici, dans une famille de 6 enfants. Je suis là, chez nous, on dit qu'on est 4 bio, 2 triso. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je suis la 4e. Je suis le bébé de 4 enfants biologiques. Et quand j'avais 8 ans, mes parents avaient toujours porté ce projet-là d'adopter un jour peut-être un enfant qu'on dit différent. Moi, c'est un terme qui est bien, mais c'est un terme, on est tous différents. Donc, moi et Laurent, on est très différents. On le constate juste à voir. Donc, mais avaient toujours porté le projet d'adopter un enfant. Alors, quand j'avais 8 ans, on a eu un petit conseil de famille. Mes parents avaient reçu un appel et on a accueilli mon frère David, qui est assis derrière, qui a aujourd'hui 36 ans. Et quelques années plus tard, alors que j'avais 12 ans, on a reçu un autre appel d'urgence pour une petite fille qui devait quitter sa famille d'urgence. Et en famille, on a décidé d'accueillir ma sœur Anne, qui n'est pas là aujourd'hui. Oui, qui est en photo par contre. Voilà, donc David et Anne. Et on a décidé d'accueillir Anne, qui aujourd'hui a, elle aussi, ben, a 37 ans. Alors, David et Anne, trisomiques, donc c'est pour ça qu'on dit on est 4 bio, biologiques, et 2 triso, 2 trisomiques. Bon, on fait des blagues comme ça, mais donc on est 6 enfants. David et Anne sont entrés dans ma vie et ont transformé ma vie. Mes frères et sœurs seraient ici et diraient la même chose que moi. Donc, on a été façonnés dès notre enfance à vivre au quotidien avec David et Anne. Vous avez vu juste comment David s'est levé. C'est pouf! C'est un soleil, un pouf de lumière, une joie intense. Voilà, donc je vais vous parler un peu plus de la déficience intellectuelle après. Mais ensuite, bon, juste pour faire court, on a grandi, puis mes parents ont fait partie du projet pour ouvrir l'Arche à Joliette, donc l'Arche communauté de vie pour des personnes avec et sans déficience intellectuelle. Donc, on partage notre quotidien. On a des foyers, c'est une des parties importantes, donc des personnes avec une déficience intellectuelle qui cohabitent avec des assistants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Nous, on travaille beaucoup avec l'immigration, pas toujours simple, hein, vous le savez. Donc, on a des assistants qui viennent d'un peu partout dans le monde partager un petit bout de leur chemin, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Il y en a qui restent toute leur vie parce qu'ils découvrent la beauté de ce que c'est, cet engagement-là. Le mot engagement est important. Alors, j'ai été dans plusieurs communautés de l'Arche et je suis aujourd'hui responsable régionale. Donc, je chapeaute les 8 communautés qui sont un peu partout au Québec. Cela dit, j'ai repoussé mon retour au travail parce que j'aime trop ça, être avec mon bébé. Donc, je devais rentrer là, dans 2 semaines, puis je retourne dans 6 mois. Mais bon, je vais retourner en septembre parce que j'ai le sentiment d'engagement fort, mais voilà. Donc, je vous parlerai de tout ça après. Mais donc, voilà, en très résumé, mon histoire.
Merci, Elisabeth. Donc, Elisabeth nous pousse à regarder, nous interpelle à regarder l'autre pour le pousser plus loin. Mais au fait, c'est nous qu'on va aller plus loin. Hein? Qu'est-ce que je vois chez mon prochain? Avec Elisabeth, on a beaucoup parlé de cette question-là, mais qu'est-ce que je vois en fait? J'aime cette question parce que je trouve que ce n'est pas facile de répondre. C'est bien plus facile des fois de fermer les yeux, d'être indifférent, parfois, je dirais, de changer de trottoir, de ne pas s'arrêter, de faire semblant d'en avoir rien vu. On le sait tous que l'indifférence, ça conduit nulle part. La compassion, par contre, ça nous fait bouger. Et c'est la foi qui fait déplacer les montagnes. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un enfant qui était paralysé des deux jambes. Vous connaissez peut-être l'histoire de Mephibosheth. J'aimerais vous partager avec vous cette histoire. Donc le texte de Samuel 4:4, qui est sur le PowerPoint. Alors je vais vous le lire. En attendant qu'il arrive. Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux deux jambes. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Mephibosheth. 2 Samuel 9. David demanda : Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit : Es-tu Tsiba ? Il répondit : Pour te servir. Le roi dit, « N'a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux deux jambes. » Le roi lui demanda, « Mais où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodébar. Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Mephibosheth !» Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien. À cause de ton père Jonathan, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Mephibosheth se prosterna et dit, « Qui suis-je, moi, ton serviteur ?» pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi. » Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain de quoi manger. En outre, Mephibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais moi, elle m'impressionne. Le roi David fait quelque chose que personne n'avait fait avant lui. Il fait effectuer des recherches. Y a-t-il encore quelqu'un sur terre en Israël qui appartient à la famille de Saül? Tous pensent alors que David veut affermir son trône. Tous pensent que s'il cherche quelqu'un de la famille de Saül, c'est pour le tuer, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait d'autres prétendants que lui sur le trône. David, lui, il n'est pas dans cette attitude-là. Il veut bénir, il veut respecter sa parole d'engagement. C'est dans 1 Samuel 20, on voit l'histoire que David et Jonathan étaient très amis ensemble, et ils se sont engagés l'un envers l'autre, et dire « si un des deux meurt, promets-moi, engage-toi de ne jamais faire du mal à quelqu'un de ma famille. » Et voilà que David apprend l'existence de Mephibosheth. Mettez-vous dans la peau de ce petit garçon, qui est un adulte à ce moment-là dans l'histoire, mais jusqu'à 5 ans, il vit dans le palais, avec Jonathan son père. Son grand-père Saül, c'est le roi. Donc une bonne éducation probablement, des bons repas, une grande cour pour jouer. Tout va bien pour lui. Un jour, son père et son grand-père partent en guerre, et il meurt au combat. Et là, la nourrice a peur. Elle dit, ça y est, ceux qui ont gagné la guerre vont venir au palais, ils vont tous nous tuer, ils vont tous nous faire disparaître. Parce que le nouveau roi va arriver et puis veut prendre place sur le trône. Donc la nourrice a peur, s'enfuit, prend le petit Mephibosheth dans ses bras, court pour ne pas être attrapée, puis dans sa course, elle tombe. Et le petit garçon se retrouve paralysé. En une seule journée, Mephibosheth perd son statut de prince, sa liberté et sa santé. Il vit à Lodébar. Lodébar, au temps biblique, c'est un ghetto. On met les gens un peu de côté là-bas, qu'on ne veut pas voir. Lodébar signifie « pas de pâturage », »,« pas de parole », »,« pas de communication ». C'est le désert, c'est la mort, c'est la fin de tout. Donc Mephibosheth vit dans la peur, vit dans un endroit de désolation, de silence. Le fils, le prince, le prétendant au trône se retrouve complètement mis de côté, mis à l'écart de toute relation, privé de tout, incapable de se déplacer, dépendant, et dans la logique de l'époque, il pense qu'il est recherché pour être mis à mort. Et quand on vient le chercher, quand David l'envoie, envoie des soldats pour le chercher, ce n'est pas un jour victorieux pour lui. Le jour qu'il redoutait est arrivé. Mais son histoire ne se termine pas comme il l'avait pensé. Quand David le voit, je pense qu'il avait en tête tous les bons moments qu'il a vécu avec Jonathan. Il voit le possible. Il voit le devenir. Il offre à Mephibosheth un avenir. Il reçoit la terre de son grand-père Saül pour la cultiver. Un pâturage pour cultiver. Il quitte Lodébar, qui signifie pas de pâturage, désert, rien du tout. Tout d'un coup, recevoir un héritage, un troupeau, un pâturage. Toute sa famille reçoit à nouveau une vie en abondance. Ce qui avait été perdu lui est redonné. Il est même invité à manger à la table du roi, à découvrir l'intimité du roi, où David peut partager ses secrets autour de la table. Mes amis, c'est ce que Jésus nous offre. On est tous à quelque part des Mephibosheth, des estropiés, des mis de côté, des gens différents, des gens que personne n'aime. On chante des fois la chanson « Non plus esclave de la peur, mais enfant de Dieu ». Jésus même a dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais amis ». Ce qui nous a été volé, Jésus veut nous le redonner. À Lodébar, ce sont les ténèbres. Ce sont la honte du passé, la vie cachée, parfois même la prison. Et le roi David, le roi Jésus, veut nous offrir son pardon. Sa joie, sa paix, le sens d'appartenance, la famille, l'amour, l'acceptation d'être vulnérable, comme l'a dit Nathalie dans l'introduction. Différent, mais humain. Au Pérou, un autre moment fort que j'ai vécu, c'est quand on est allé dans un orphelinat. Tu peux montrer la photo. Il y avait une douzaine d'enfants qui nous ont couru dessus, qui ont voulu faire des jeux avec nous. Mais de loin, il y avait un enfant, jeune adulte, dans la vingtaine plutôt, qui est venu vers moi tout de suite dans mes bras. parce que je me suis déplacé vers lui, il a osé se lever. J'ai appris que ce jeune homme ne parle pas. Retrouvé abandonné comme bébé, seul dans la rue. Aujourd'hui, c'est une personne avec une grosse déficience intellectuelle, plusieurs handicaps. Mais quand il m'a vu, il est venu vers moi, il s'est dépêché et il m'a pris dans ses bras. Tu peux montrer la photo suivante. J'ai l'impression d'être énorme. Mais pendant 3 minutes, on m'a dit que c'était long. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Il est simplement réfugié dans mes bras. Puis, je pense qu'il avait plein de poux. Je pense qu'il avait plein de choses qui n'étaient pas belles. Mais je n'ai pas regardé ça. J'ai simplement ouvert mes bras et je dis, ben, c'est ça. C'est ce que Jésus veut faire avec chacun d'entre nous. C'est ce qu'il fait. On n'a rien à Jésus à lui montrer. Regarde-moi, regarde. Regarde tous mes diplômes. Regarde tout ce qu'il est capable de faire. Jésus nous accueille. Alors, face à la différence, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la différence t'apporte, Elisabeth? Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement?
Alors, combat des évangiles. Alors, c'est une blague, mais je vais vous partager, moi, ma parole d'évangile qui résonne en moi. Je ne l'ai pas écrite. Oui, voilà. Alors, quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés, j'imagine, te sont pardonnés. » Je ne vois pas tout ce qui est écrit, vous voyez. Hein? Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? » On va arrêter là, en fait, parce que vous allez voir que le reste, c'est pas tant ça qui est important. Quand on lit, ben pour moi, c'est très important dans l'histoire, là, mais pour moi, c'est pas ce qui me touche. Donc, quand on lit cette parole-là, le premier réflexe qu'on a, c'est de penser que grâce aux 4 hommes, l'homme paralysé a pu se rendre à Jésus. Donc, on rend grâce pour les 4 hommes qui ont porté le paralytique puis qui ont amené le paralytique à Jésus. Moi, j'ai toujours senti cette parole-là inversé. Pour moi, c'est grâce au paralytique que ces 4 hommes-là ont pu aller à Jésus. C'est grâce à lui qu'ils ont pu être près de Jésus. Parce que la foule était tellement grande qu'ils n'auraient jamais pu se rendre près de Jésus, qu'ils n'auraient jamais pu aller à lui. Mais grâce au paralytique, ils ont imaginé les choses autrement, ils ont défait le plafond, ils ont descendu l'homme et ils se sont rendus à Jésus. Et pour moi, c'est ça la plus grande révélation de la déficience intellectuelle ou de la différence. Mais moi, je vais vous parler de la déficience intellectuelle. Dans ma vie à moi, j'ai été façonnée, j'ai été transformée et j'ai été touchée par le cœur de Dieu à travers mon frère et ma sœur quand j'étais jeune et ensuite à travers plein de gens, bien sûr. Mais grâce à David et Anne, j'ai pu apercevoir le cœur de Dieu à travers ce qu'ils sont, à travers leur capacité de pardonner, de recommencer chaque jour comme si c'était le premier jour de leur vie, de ne pas avoir de rancune, d'avoir un amour très grand pour les gens plus fragiles, pour les gens plus démunis, pour les gens différents, pour chacun de nous. Donc, pour moi, cette parole-là est vraiment... Elle a toujours résonné très fort parce que moi, c'est au paralytique que je rends grâce parce qu'il nous amène et il m'a amené à Jésus. Je ne veux pas romantiser la déficience intellectuelle. Hein, Louise, on ne romantise pas ça, la déficience intellectuelle. On sait qu'au quotidien, c'est difficile, comme dans toutes nos familles, comme dans toutes nos histoires de couple. Ce n'est pas toujours facile. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans la capacité, à recommencer chaque jour comme si c'était le premier. Ma sœur Anne a un très fort caractère. Hein, David? Anne, elle a du caractère, hein? Ouais. On s'en mêle pas. Mais pas David, non. Ma sœur, elle est extraordinaire. C'est une battante, c'est une résiliente, qui a une force de vivre, qui est passionnée, qui meurt dans la vie, mais qui sait franchement ce qu'elle veut et où elle veut aller. Donc, quand elle était petite et qu'elle est arrivée à la maison, vous pouvez imaginer qu'elle est encore plus dure qu'elle est aujourd'hui. Ma mère a toujours dit, je fais une parenthèse, mais que mon frère est bon parce qu'il veut être aimé, mais ma sœur, elle est devenue bonne à force d'être aimée. Hein, on saisit la différence. Hein. Parole de sagesse de maman. Je vais dire que vous avez fait ça, elle va être bien contente. Donc, ma sœur, il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, jour après jour, après jour, après jour. Et ma sœur a la capacité incroyable de se lever chaque matin en ayant tout oublié ce qui s'est passé la veille, avec son sourire extraordinaire, avec la joie de nous retrouver comme si ça faisait 6 mois qu'on ne s'était pas vus. Quand ma sœur, elle vient chez moi, mettons, elle passe 3, 4, 5 jours chez nous, on va la reconduire chez mes parents, puis j'appelle le soir chez mes parents pour je ne sais pas quoi. Ma sœur me répond comme si ça faisait 1 an, là, comme si j'étais partie en Afrique, qu'on ne s'était pas vus depuis. Puis là, écoute, elle a une joie incroyable, mais il y a une capacité de pardon. Donc, pour moi, à travers les personnes qui ont une déficience intellectuelle, j'ai touché au visage miséricordieux de Dieu, à cet amour-là inconditionnel, à ce désir-là de juste être en relation. Je vais t'aimer, peu importe. Peu importe ce que tu fais, peu importe si t'es de la scrap aujourd'hui, puis si t'es pas correct, puis si t'as pas réussi, puis si t'es tout croche, je vais t'aimer quand même, juste parce que t'as envie d'être là, juste parce que tu veux être en relation avec moi. Comme Dieu fait, Nathalie, tu disais, on ouvre les bras, je mets mon cœur, puis je peux juste être ce que je suis. Ben moi, être en relation avec des gens qui ont une déficience intellectuelle, c'est accepter de me laisser transformer, et accepter d'être ce que je suis. Je vous partage un petit exemple qui peut paraître un peu ridicule, mais vous allez comprendre. Chez nous, on a une famille d'accueil avec des adultes qui ont une déficience intellectuelle. C'est bien original, ma vie. Et c'est une blague, là, dans le sens où c'est juste la déficience intellectuelle. Oui, d'accord. Donc, on accueille... Oui, ben de l'amour. On accueille François qui a habité avec nous pendant plusieurs années. François, aujourd'hui, vit à l'Arche. Et... mon chum faisait des corvées de légumes. Donc, tout le monde, on s'assoit autour de la table, puis on coupe des crudités pour la semaine, pour les lunchs. Bon. François, lui, il coupe ses crudités tout croche. Tu sais, moi, quand je coupe des crudités, j'aime ça qu'il y ait un certain ordre. Hein? Des beaux petits bâtonnets de concombre, ben, caca, bon. Ça soit à peu près tout de la même grandeur. François, lui, il coupe ça, là, pff, 2 cm, 4 cm, c'est large, c'est court, un piment rond. Jusque-là, tout va bien parce que ça reste dans la maison. Mais moi, ma gang, ils vont travailler chaque jour. Donc, dans les lunchs, je dois mettre des crudités. Alors, dans les lunchs de François, le midi, il y a le petit pot de crudités avec les grandes carottes, les petites carottes, les concombres croches, les piments ronds. Il m'a fallu des années, c'est pas une blague, des années pour accepter que le lunch de François serait croche. Parce que c'est mon image. On parlait de moi, là. Pour accepter l'imperfection, pour accepter que c'est correct que ce soit croche. C'est pas grave que ce soit pas parfait. C'est correct que ça clinque un peu puis que ce soit bon. Vous comprenez l'exemple, hein? Ben, c'est la même chose pour nos cœurs, pour ce qu'on est. Écoute, j'aurais tellement de choses à dire, mais le temps file, mais je vais vous parler un petit peu de David. Hier dans la journée, on était allé à des funérailles. Donc, on a un grand ami à nous, Pierre-Vincent de l'Arche, qui est décédé, puis on avait des funérailles hier. David est venu dormir à la maison. Donc, moi, je suis dans mon lit. David se prépare pour aller dormir. Il vient me dire bonne nuit dans ma chambre. Il s'assoit à côté de moi. Et il me dit, les deux, on a de la peine. On aimait vraiment beaucoup Pierre. Donc, David me dit, j'ai de la peine. Moi aussi. Et là, on s'est accoté la tête, un sur l'autre. Puis, on est resté 2-3 minutes en silence. On s'est regardé après, les yeux pleins d'eau. Il m'a donné un bec sur le front, puis il est allé se coucher. On a pu déposer dans cet espace-là notre deuil. On a vécu notre deuil ensemble. On n'a pas eu besoin de mots. On n'a pas eu besoin de grandes paroles comme on est donc capable, nous, on a besoin de nommer, puis ah oui, puis peut-être que... On n'a pas eu besoin de mots. On a eu besoin d'être ensemble. À l'Arche Joliette, il y a quelques années, on a commencé le projet d'accueillir des femmes de la prison de Joliette qui viennent cuisiner des repas, faire du bénévolat. J'ai toujours osé espérer qu'ils retrouvaient un peu de dignité à nourrir les gens de la maison puis à redonner de leurs mains, tu sais. Et on a accueilli Mélanie. Puis je nomme son nom parce que Mélanie, elle a passé à télé avec David, puis ça a été, c'est connu, là. Puis vous avez peut-être déjà entendu l'histoire ici par Laurent, mais donc Mélanie, première femme prisonnière qu'on a accueillie, qui est en prison depuis 14 ans. Et Mélanie s'entendait bien avec tout le monde, mais ça a cliqué avec David. Elle préparait le repas chaque semaine avec David. Une semaine, elle retourne à la prison. Laurent était là avec Guy, l'aumônier de la prison. Et il voit Mélanie, qui est comme un peu chamboulée, Ça va, Mélanie? Oui, j'arrive de l'Argeliette. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Mélanie se met à pleurer et dit, on m'a dit je t'aime. Et ça faisait 14 ans que personne ne m'avait dit je t'aime. C'est David qui a dit je t'aime à Mélanie. Simplement en l'accueillant parce qu'il est heureux de la retrouver. Puis il y a eu un reportage à la télé, puis il parlait, David et Mélanie, en cuisinant. Puis Mélanie, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle parlait un peu de son histoire, puis de sa fille qu'elle ne voyait pas, puis elle pleurait. Puis David, il a juste dit, Mélanie, après la peine, la joie. C'est tout. Pas besoin de plus. Besoin d'une épaule, besoin d'un je t'aime, puis besoin d'un après la peine, la joie, Laurent. Ça va être correct, t'sais. Moi, j'aurais eu besoin de dire à Mélanie, oh, c'est pas facile, hein? Ta fille, puis oh, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment je peux t'écouter, puis comment je pourrais t'accompagner dans ça. Puis, c'est important, on a besoin de ça parfois. Mais on a souvent, très souvent, juste besoin d'un David qui nous met une petite main sur l'épaule, hein, Karine? Et qui vient tout doucement transformer nos cœurs. Ce qui est extraordinaire à l'Arche, c'est que les assistants viennent avec le désir qui est honorable de changer le monde, de faire une différence, de dire, je veux marquer dans le monde, fait que je vais aller à l'Arche, je vais aller prendre soin, des handicapés, puis je vais aller faire une différence dans le monde. Et ils repartent tous, en disant qu'ils ont été transformés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les personnes comme mon frère David, comme Sylvain, comme plein de monde, ont la capacité à être en état d'attente. Tu le disais dans ta parole, j'ai pas l'exemple exact, mais il faut lâcher prise, faire confiance. Bon, tu disais ça. Ils sont toujours en train de recevoir de l'aide. Ils ont mon frère a besoin d'aide pour laver ses cheveux. Karine, elle doit aider David tous les matins pour laver ses cheveux, faire les repas, la gagne à l'Arche. J'ai besoin d'un livre parce que je vais aller quelque part. Je veux faire une sortie. Donc, ils sont toujours en état de recevoir. Toujours en état de se faire aider. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette extrême confiance de dire, qu'est-ce que toi, tu as à m'apporter? Moi, je suis là aujourd'hui, je sais que tu vas m'aider, mais plus profondément que ça, t'es qui, toi? Comment tu vas m'aider? Quelle couleur tu vas mettre dans ce lien-là qu'on a, dans ce service-là que tu vas me rendre? Comment tu vas ajouter à ma vie? Qu'est-ce que tu vas venir transformer dans ma vie? Puis, en échange, je vais transformer ta vie. Jamais, en tout cas rarement, ça m'est arrivé dans ma vie, je n'ai pas souvenir, qu'une personne avec une déficience intellectuelle me dise « Oh, Elisabeth, où tu as étudié? Ah, moi, j'ai étudié à l'université à l'UQAM. Ah, tu fais quoi comme travail? Travailleuse sociale? Ah, c'est extraordinaire. Combien tu as comme salaire annuel? C'est-tu intéressant le travail social? Est-ce que tu fais... Jamais, jamais. Toi, Elisabeth, c'est quoi ta couleur préférée? Qu'est-ce que tu aimes manger pour souper? T'aimes-tu ça, la pluie dehors? Il fait beau, hein? C'est tellement... Il y a une simplicité, puis il y a une pureté qui n'est pas romantique, là. Il n'y a rien de romantique. Puis des fois, c'est les mêmes questions, puis... Mais c'est extraordinaire parce que derrière ça, ce qu'on me dit, c'est qui tu es? Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Est-ce que tu veux être en relation avec moi? Puis, j'ai un ami qui me disait tout le temps que je suis parfaitement imparfaite. Puis, je trouve ça donc beau. Puis, je me dis, les personnes qui ont une déficience intellectuelle sont parfaitement imparfaites, exactement comme l'a voulu Dieu, pour moi et pour chacun de nous. Et elles sont à la hauteur de ce que nous sommes, une page d'évangile par leur vie, par leurs dons, et elles ont la capacité de révéler le don de l'autre et de nous donner le cadeau et l'exigence d'être nous-mêmes. On ne peut pas avoir de masque. Si on en a, ça ne dure pas longtemps, je vous garantis, parce que ce n'est pas long qu'ils vont venir faire sortir l'impatience, la colère, la maladresse. Fait que je peux bien me faire croire que je suis extraordinaire là, quand je suis assise dans mon salon. Mais si je passe une semaine avec mon frère, là, ça va arriver, je dis comme David. Là, oh, je régulièrement face à mes limites, régulièrement face à ce que je suis. Donc, elle m'oblige avec douceur et délicatesse à être ce que je suis et à juste donner ce que je peux donner, ni plus ni moins. Donne le meilleur de toi, par exemple. Sois pas médiocre, donne le meilleur de toi. Mais essaie pas de donner d'autres choses, puis essaie pas de donner plus. Bon, j'aurais tellement de choses à dire, mais...
On est les deux, hein? Ouais. Wow!
En tout cas, Elisabeth, ce qu'elle m'a appris au travers de ces années, c'est que moi, je suis arrivé à l'Arche, ben oui, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis, il vient l'idée de t'es sauveteur. puis les gens qui sont autour de toi, ils ont des besoins. Donc, tu te regardes, je les regarde un peu plus haut, jusqu'à ce que je me rende compte que, mais non, il a été créé comme moi, à l'image de Dieu. On est égal. Il a des richesses que je n'ai pas. Et avec lui, je vais apprendre. Donc, merci de m'avoir fait découvrir ça. C'est un cadeau. Donc, aujourd'hui, Elisabeth, ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'on est encouragé à mettre les lunettes de Dieu, à regarder notre prochain comme un cadeau, comme quelqu'un d'unique, différent, mais qui va nous pousser à nous améliorer, qui va nous pousser à être une page d'évangile.
J'aurais envie de dire, Laurent, à regarder l'autre avec le regard de Dieu, mais
se laisser
regarder avec le regard de Dieu. Moi, c'est là mon... C'est ça ma grande révélation, c'est que mon frère, il me regarde avec le regard de Dieu. Puis après, j'ai la responsabilité de redonner ce regard-là. Pardon.
Mais c'est très bien, j'allais finir par ça aussi, que c'est pas facile d'accepter d'être imparfait, mais le regard de la perfection sur nos imperfections nous fait grandir. Alors, merci, Elisabeth. Alors, on aimerait, Elisabeth, aujourd'hui, vous inviter à lâcher prise dans les choses qui vous paraissent difficiles, à faire confiance, à être responsable, à s'engager, puis à se laisser porter vers Jésus pour qu'on puisse être une page d'évangile. C'est ça.
Ouais. Et à oser la rencontre et la relation qui finalement nous transforme.
C'est ça. Voilà. Donc, on va terminer par une petite vidéo.
Oui, rapidement. Là, c'est une vidéo qui a été créée par Nicolas Hurd, qui est une personne de la communauté de l'Arche à Toronto. Nicolas est trisomique, puis c'est son histoire. Je vais vous traduire. Il y a juste des phrases écrites en anglais. Il y a pas vraiment de paroles, mais... Ça termine en disant, il est parfait. Il était parfait, ou en tout cas, vous allez voir, mais puis je pourrais ajouter, comme l'a voulu Dieu. Donc, voilà, cette vidéo de l'Arche, de Nicolas de l'Arche Toronto, qui a été en nomination aux Oscars pour vidéo d'animation. Bon, on ne se pète pas les bretelles, mais un petit peu quand même, là, même si ce n'est pas important.
Puis en attendant que la vidéo commence, j'aimerais... dire aussi que Jésus, en venant sur terre, il s'est limité. Je terminerai après.
Est-ce que tu veux prier? Tu veux prier pour nous?
Ouais. Non, il y a beaucoup d'émotions. Méphibosheth. Il y en a tout autour de nous. Et des fois, c'est nous-mêmes qu'on est Méphibosheth. David a accueilli, Jésus nous accueille. Alors, je vous encourage cette semaine d'être comme David, comme Jésus. Se laisser accueillir, mais aussi faire le pas d'être une page d'évangile. Voilà ce qu'on aimerait vous dire avec Elisabeth. Que Jésus s'est limité en venant sur terre, dans ses pouvoirs, mais comme le paralytique, on va être conduit vers Jésus. Alors, laissons-nous aimer, laissons-nous porter, et puis faisons toute une différence là où nous sommes. Alors, je vais prier. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta parole qui nous révèle un peu ta perfection dans nos imperfections, ton amour inconditionnel. Seigneur, il y a tellement de choses croches en nous que tu veux aimer, que tu aimes. Aide-nous à nous accepter. Puis aide-nous aussi quand on croise quelqu'un de différent. Je ne parle pas seulement de la déficience ou de la trisomie, mais donne-nous de faire le pas, de dialoguer, de comprendre, d'être témoin de ton amour. Alors, merci de nous accompagner et ouvre le chemin pour nous, afin qu'on ose aller là où on est fragile, on ose être visité par ton amour. Merci pour ton pardon, pour ta grâce, pour tout ce que tu veux faire. Au nom de Jésus. Amen. Tu veux dire quelque chose d'autre, c'est bon?
Non, merci. Merci de la place que vous faites à chacun.